Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, épisode numéro 29.
Se nourrir dans l'espace aujourd'hui. La qualité élevée et l'aspect nutritif des aliments sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'au début de la conquête spatiale, parce que les astronautes peuvent passer des mois dans l'espace à bord de la Station Spatiale Internationale et que manger est un des grands plaisirs de la vie, même lorsque l'on se trouve en orbite à 400 km au-dessus de la Terre. Et que les repas en commun font partie des moments de convivialité qui permettent aux astronautes de supporter ce relatif isolement. La nourriture spatiale est chère et son coût s'explique surtout par les frais de livraison sur l'ISS, de 5 000 à 10 000 $ par kilo. Et les aliments doivent répondre à certains critères pour se retrouver en orbite. Ils doivent être compacts. L'espace est très limité à bord de la Station Spatiale Internationale. Ils doivent être légers. L'envoi de produits en orbite est extrêmement coûteux. Ils doivent être nutritifs. Les aliments doivent contribuer à la saine alimentation de l'équipage. Ils doivent être savoureux. Le sens du goût des astronautes est diminué en apesanteur. Ils doivent être collants ou humides. Les miettes et les particules flottent librement sans gravité. Ils doivent être traités ou pasteurisés et la nourriture doit se conserver au moins pour toute la durée d'une mission, qui peut durer 6 mois. Il existe 3 principaux types d'alimentation conservés pour l'espace. Les aliments réhydratables, y compris les pommes de terre en purée et les boissons en poudre, qui sont envoyés déshydratés. Ils retrouvent leur état normal lorsqu'on leur rajoute de l'eau à bord de l'ISS. Les éléments thermostabilisés, y compris le thon et le pudding au chocolat, subissent un traitement thermique et sont prêts à manger. Et les éléments irradiés, y compris le poulet et la dinde, qui sont exposés à des rayons et sont également prêts à manger. L'irradiation tue les microbes, mais ne rend pas les aliments radioactifs. En plus, des nutritionnistes doivent s'assurer que tous les menus fournissent entre 1900 et 3200 calories par jour aux astronautes, selon leur poids, leur sexe et leurs besoins particuliers. La NASA est en train de procéder à des expériences pour vérifier si les différents régimes alimentaires spatiaux peuvent prévenir certains problèmes de santé, comme la perte osseuse et musculaire que les humains subissent lorsqu'ils vivent en microgravité. Pour faciliter les choses, il y a un menu permanent sur l'ISS. Ce menu de 8 jours comprend 3 repas et une collation par jour. Évidemment, les astronautes qui sont envoyés 6 mois dans l'espace sont consultés. Avant leur mission, les astronautes choisissent leur repas parmi quelques 300 plats différents qui figurent au menu de la NASA. Les astronautes goûtent des produits et les notent de 0 à 10. Tous les aliments en dessous de 6 ne passent pas. Chaque astronaute a sa liste de préférence, qui contient environ 200 articles. Les cosmonautes et les astronautes peuvent manger tout ce qu'ils veulent, sauf des produits nuisibles, comme l'alcool et des boissons gazeuses. Les astronautes ont des menus différents, non seulement selon leurs préférences, mais aussi selon leur pays. Si les cosmonautes russes ont au menu de la volaille à la noix de muscade et de l'esturgeon frais, les Chinois préfèrent le riz et le porc, les Japonais, les sushis, une soupe aux nouilles et de la sauce soja. Les Français, quant à eux, peuvent commander des truffes. Le repas préféré des Russes est le fromage blanc aux noix, qu'adorent également les astronautes américains qui ne l'ont pas au menu. Les Russes, en revanche, adorent le café américain. Thomas Pesquet a bénéficié pour les repas de fête de menus préparés par des grands chefs comme Alain Ducasse ou Thierry Marx. Un exemple de dégustation proposé à un astronaute canadien. 4 sortes de poissons fumés, dont un à l'érable, poivrons et tomates déshydratés, des crevettes épicées, des lasagnes et des pâtés. Le meilleur aliment, selon les astronautes, le dessert. Des noix, des fruits séchés, des noix de coco déshydratées et un biscuit à l'érable qu'on trouve en épicerie. Le tout nappé d'une sauce au chocolat. On pourrait manger ça en regardant la télé. Le pire, les pâtés de homard et de crabe dont la texture évoque les conserves de nourriture pour chat. Les portions d'aliments sont emballées dans des sachets en plastique ou en pellicule d'aluminium. Les sachets d'aliments réhydratables comprennent une ouverture pour y ajouter de l'eau. Pour les sachets contenant des boissons, les astronautes utilisent la même ouverture dans laquelle ils insèrent une paille spéciale qui ne laisse pas échapper de liquide en microgravité. Pour les éléments solides comme des gâteaux, ils utilisent une grande cuillère. Certains aliments comme les noix, les petits biscuits et les tortillas peuvent être emballés dans leur forme naturelle pour être envoyés dans l'espace. Exactement comme lorsqu'ils sont destinés à être consommés sur Terre. Ils sont seulement passés à une solution spéciale riche en antioxydants qui sert à les garder frais durant 40 jours. Exemple de préparation nourriture hydratable à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour animer les produits sous vide, rien de plus simple. Les astronautes ajoutent de l'eau chaude, à 85 degrés, ou à température ambiante, dans un orifice spécial de l'emballage, afin de réhydrater la nourriture. L'astronaute entrecoupe un sachet en ne faisant qu'un petit trou, pour ne pas laisser fuir de petites particules dangereuses pour les équipements et les voies respiratoires des astronautes. Puis il connecte le sachet à une pompe à eau et met la quantité d'eau indiquée. Il le mélange et obtient un repas absolument délicieux. Les fruits et légumes frais sont un plaisir rare à bord de la Station Spatiale Internationale. Ils n'arrivent que les 2 ou 3 mois dans un vaisseau de ravitaillement. Le système de production des légumes de la NASA, surnommé Veggie, permet aux astronautes de cultiver leur propre nourriture à bord de la Station Spatiale. En août 2015, les astronautes ont mangé pour la première fois un légume cultivé dans l'espace, à savoir de la laitue. Puis Veggie a été utilisé pour cultiver du chou chinois en 2017 et des tomates cerises en 2018. Le plus grand avantage de Veggie est l'effet qu'il a sur les astronautes. Prendre soin des plantes qui poussent dans l'espace est une activité agréable et familière. Cette activité aura une grande importance à l'avenir lorsque les astronautes participeront à une mission de 3 ans sur Mars. Et le 17 janvier 2016, Scott Kelly a publié une photo d'une fleur de zinnia orange cultivée dans l'ISS. Car si aujourd'hui tout ce que consomment les astronautes est envoyé depuis la Terre, il faudra bien que les habitants des bases lunaires ou martiennes, ou ceux embarqués dans des vaisseaux effectuant de longues traversées, soient autonomes. Aussi, de multiples expériences ont été menées pour voir comment les légumes pouvaient pousser en apesanteur. Dès 2002, les Chinois ont embarqué sur la capsule Shenzhou 4 des graines de balsamine. Au retour de leur 6 jours en orbite, les chromosomes de la plante avaient été modifiés, passant de 7 paires à un nombre allant de 6 à 28. Et les fleurs ayant germé ont montré elles aussi des différences majeures par rapport à des fleurs de plantes restées sur Terre. C'est pour cela qu'une fusée Falcon X a emmené en novembre 2018 un petit satellite, EU-Cropis, à 600 km d'altitude, avec pour chargement des serres remplies de plantes tomates. Leur croissance a été observée par 32 caméras et une multitude de capteurs. Comme alimentation, ces plantes auront des nitrates, qui seront dans le futur produits par la décomposition de l'urine des astronautes. D'autres expériences de cuisine ont été menées à bord de la Station Spatiale Internationale. La cuisson de cookies dans un four de la société 0G, rien à voir avec la viande de Novespace, et la production artificielle de tissus de bœuf, de lapin et de poisson avec une imprimante 3D. Une étude menée par l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, a montré que le sol de Mars pouvait convenir à la culture de plantes, mais que le climat de la planète imposait que cela se fasse sous serre. Ces serres devront être pressurisées à 500 millibars, une valeur similaire à celle que l'on trouve sur Terre à 5500 mètres d'altitude. La matière première permettant d'élaborer de la nourriture étant chère, surtout sur Mars, tout ce qui pourrait être recyclé le sera. Une expérience, Mélissa, a été menée par l'ESA pour transformer des déchets en nourriture. Voyons maintenant la santé des astronautes. Nous avons déjà vu qu'ils sont soumis à un environnement nocif pour leur santé. N'ayant plus d'efforts à faire, les muscles, dont le cœur, s'atrophient dans l'espace. Heureusement, les conséquences, une réduction de la masse musculaire entraînant des risques de chute à terre, des difficultés à se déplacer à cause de la gravité terrestre, finissent par disparaître. Lors des missions longues, les astronautes passent de longs moments à faire des exercices physiques, en particulier sur un tapis de course. Et c'est dans l'espace qu'une astronaute, Sunita Williams, a couru le marathon de Boston en 2017 en 4h et 24 minutes. Si le cœur lui-même ne souffre pas trop, ce sont les parois des artères supérieures, engorgées jour et nuit, qui se durcissent et s'épaississent. Scott Kelly s'était plaint au retour de sa mission de plus de 6 mois de douleurs dans ses pieds et ses chaussures. Lors de ses jours prolongés, plus de 6 mois, les astronautes ont souffert de troubles oculaires. Une étude portant sur plus de 600 voyageurs de l'espace a montré des atteintes au nerf optique et à la paroi du fond de l'œil. Du fait de la non-pesanteur, le volume du liquide cérébro-spinal augmente, aplatissant les globes oculaires, modifiant la vision, rendant les astronautes hypermétropes et d'une façon possiblement irréversible. Du fait de l'absence de gravité, les astronautes grandissent de plusieurs centimètres lors des vols de longue durée, mais retrouvent leur taille normale après leur retour sur Terre. Thomas Pesquet a ainsi pris 5 cm au cours de ses 6 mois passés dans l'espace, entre le 2 novembre 2016 et le 2 juin 2017. Mais un autre phénomène plus gênant intervient. Les os porteurs du squelette deviennent poreux après le retour sur Terre et une partie de cette perturbation n'est jamais récupérée. Ce phénomène touchant les os a été étudié par James Taboni du CEA et a montré les perturbations de l'apesanteur sur le cytosquelette. Il a été constaté chez des astronautes ayant passé plus de 6 mois dans l'espace un affaiblissement de leur système immunitaire, et les vaisseaux spatiaux abritant une importante quantité de microbes, les risques d'une infection en mission ne sont pas à négliger. Une autre étude a montré que des astronautes en vol de longue durée enregistrer une dégénérescence cérébrale, se traduisant par une diminution du volume de la matière grise, un rétrécissement du sillon central, la séparation des lobes pariétal et frontal, une augmentation du liquide céphalo-rachidien et une variation de la substance blanche. Anomalie trouvée lors d'examens IRM sur 34 astronautes de la NASA. Ceci pourrait avoir un effet négatif sur les capacités cognitives des astronautes embarqués lors de longs voyages, vers Mars par exemple. Une expérience originale a été menée par la NASA en 2015. Il y a dans le groupe des astronautes américains des jumeaux, les frères Kelly. Pendant que Scott va passer 340 jours à bord de l'ISS, son jumeau Mark subit les mêmes examens, mais à terre, pour voir quelle influence l'environnement spatial a sur le physique des astronautes. Ces mesures ont permis de mettre en évidence des différences de comportement au niveau de l'expression des gènes et de la flore intestinale. En avril 2018, le résultat est tombé. 8,7% des gènes de Scott ont été perturbés durablement par son séjour prolongé dans l'espace. Son système immunitaire était en surchauffe, l'extrémité des chromosomes s'est alors rallongée, mais après quelques mois sur Terre, l'inverse s'est produit, signalant un vieillissement des cellules. Une autre étude de la NASA, publiée en novembre 2020, montre que des mitochondries, organites chargées d'assurer la production d'énergie des cellules, ont une activité moindre dans l'espace. Des essais sont menés depuis longtemps pour simuler sur Terre les effets des voyages dans l'espace. Une expérience s'est déroulée en septembre et octobre 2017 à la clinique spatiale de Toulouse. 10 sportifs sont restés couchés pendant 2 mois, la tête plus basse que les jambes, pour étudier la migration des liquides vers le haut du corps. Des cas de problèmes de santé commencent à apparaître dans l'espace. En 2019, un astronaute volant dans l'ISS a été soigné pendant 3 mois pour un caillot sanguin dans une veine jugulaire, sans que ce caillot ne disparaisse complètement, faisant peser un risque d'embolie pulmonaire à l'astronaute. Après son retour sur Terre à la date prévue, le caillot s'est spontanément résorbé, montrant bien l'accroissement de ce risque en apesanteur. Mais les conditions de vie dans l'espace et la préparation des astronautes s'améliorent. En témoigne la différence d'acclimatation au retour sur Terre constatée sur 2 astronautes français ayant passé 6 mois dans l'espace. Le retour à la normale de Jean-Pierre Aigneré, après son séjour en 1996 dans la station Mir, avait pris plusieurs mois, alors que Thomas Pesquet, au retour de l'ISS en 2017, avait retrouvé une activité normale en moins de 2 semaines. Enfin, un autre trouble pourrait affronter les équipages. La cohabitation de très longue durée, dans un environnement confirmé, sans aucune échappatoire, pourrait créer des conflits d'ordre psychologique entre les occupants du vaisseau spatial. Voyons maintenant un point particulier, la santé des femmes. Les voyages dans longue durée pourraient être décommandés aux femmes. Plusieurs études ont montré qu'elles risquaient, plus que les hommes, de développer des cancers après les vols, étant 1,7 fois plus sensibles à la radioactivité. Bien évidemment, il y aura toujours des femmes prêtes à courir ce risque pour faire le voyage, vers Mars par exemple. Et il est possible que d'ici à ce que ce voyage soit réalisable, la science ait trouvé le moyen de guérir les cancers. Et toutes les études montrent qu'un équipage mixte a de meilleures chances de réussite de missions de longue durée qu'un vaisseau peuplé d'hommes uniquement. Mais les études étant ce qu'elles sont, dans un autre domaine, il a été montré que les cerveaux d'animaux femelles, en l'occurrence des souris, soumis à des rayons cosmiques, souffraient moins que celui des mâles, en termes d'apprentissage et de mémoire, et ne présentaient pas, comme les hommes, de problèmes d'acuité visuelle pendant et après leur séjour dans l'espace. Un autre point d'avenir, la naissance dans l'espace. Les premières expériences visant à étudier le comportement d'embryons dans l'espace ont été menées avec Mir. En 1996, des œufs ont été installés dans un incubateur embarqué dans la station russe et le résultat a montré que les œufs incubés en orbite présentaient plus d'anomalies que ceux couvés sur Terre. D'autres expériences avec des œufs de crevettes ont eu lieu dans le Space Lab. La Chine commence à se préoccuper de la conception des baies dans l'espace. Des cellules souches humaines ont été embarquées dans le vaisseau spatial Tianwen 1, lancé le 20 avril 2017. Elles ont grossi pendant 30 jours, ce qui a permis de vérifier que la différence cellulaire se poursuivait normalement en apesanteur. Et depuis septembre 2022, une expérience est en cours à bord de la station spatiale chinoise Tiangong 3 dans le module Ventiam, qui est équipé d'une armoire dédiée aux sciences de la vie, avec une étude de la reproduction des êtres vivants. SpaceX a embarqué en avril 2018 du sperme humain afin d'étudier sa mobilité en apesanteur pour la comparer à celle sur Terre. Peut-être une première étape vers la procréation en apesanteur. Car si l'humanité veut s'embarquer un jour à destination des étoiles, le voyage aura des centaines, voire des milliers d'années, et il faudra bien penser au renouvellement des équipages. Mais accoucher dans l'espace est une expérience non encore tentée. Les seules expériences en apesanteur ont été faites avec des rats, qui ont toutes fait des grossesses nerveuses. Faisons maintenant un petit bilan des voyageurs de l'espace à août 2022. Début septembre 2022, 587 personnes, dont 69 femmes, ont fait ce voyage dans l'espace, au cours de 332 vols habités. L'homme a déjà passé plus de 55 000 jours dans l'espace. 24 astronautes américains différents ont vu la Terre depuis la Lune. Trois d'entre eux, Lovell, Cernan et Young, auront eu le privilège de faire deux fois ce voyage extraordinaire. Et moins de 1% des astronautes partis dans l'espace y ont péri. Deux astronomes, l'un de Berkeley en Californie, l'autre du Royaume-Uni, ont exposé leur point de vue sur la présence de l'homme dans l'espace en comparant les réalisations des sondes actuelles qui parcourent le système solaire, et même au-delà, avec les difficultés de faire vivre des hommes et des femmes, peut-être des colonies de plusieurs millions d'individus. Pour conclure cette première partie, je voudrais donner quelques petites premières ou records pour qu'on ait une idée des dates. Avril 61, Yuri Gagarin est le premier homme dans l'espace. En juin 63, Valentina Tereshkova est la première femme dans l'espace. En juillet 69, Neil Armstrong est le premier homme sur la Lune. Juin 82, Jean-Luc Chrétien est le premier Français dans l'espace. Et en juin 1995, Valery Polyakov tient le record de durée en une seule mission, 437 jours dans l'espace. Et en septembre 2015, Gwenny Padalka détient toujours le record de durée, 870 jours en 5 missions.
C'était Espace Horizon Inaccessible, numéro 29. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.